arriver à comprendre?
Oh, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps. Donnez-moi la force de
comprendre, car ces visions me sont... Martin Carly, bonjour.
Bonjour Marie-Hélène.
Martin, on parle beaucoup de santé ensemble parce que dans le domaine de la science, c'est l'une des principales branches.
Oui.
Et l'un des principaux problèmes du monde de la santé, c'est cette résistance des bactéries aux antibiotiques.
Ouais.
Moi, j'entends parler de ça depuis 10-15 ans. Et
ah,
là, on
oui.
a fait une découverte qui pourrait peut-être
Oui, tout
servir.
À fait. Une nouvelle approche, effectivement, pour essayer de démolir ça, cette résistance aux antibiotiques, ou à tout le moins de prendre un chemin différent pour essayer de combattre ces bactéries-là malgré tout. En fait, faut savoir que pourquoi les bactéries développent cette résistance-là, c'est parce qu'elles peuvent se reproduire très, très vite, beaucoup plus vite que nous. T'sais, nous, pour nous autres, une génération, c'est 25 ans à peu près pour les bactéries. On parle de minutes, là. Ça va pas mal plus vite.
Ouais.
Donc, sont capables d'acquérir les mutations nécessaires pour développer une résistance quand même assez rapidement, ce qui pose un gros problème. Hein. Donc, nos antibiotiques traditionnels fonctionnent plus vraiment pour certaines de ces bactéries-là. Il y a des bactéries qui sont résistantes. Dans certains cas, on est rendu dans nos derniers retranchements, donc les derniers antibiotiques qu'on peut utiliser dans certains cas. Donc, il faut trouver des solutions à ça parce que sinon, disons que l'espérance de vie pourrait baisser.
Non,
là.
Parce que les antibiotiques n'ont pas beaucoup changé. Là.
Pas tant,
la base
non.
est pas mal la même depuis
exact.
Des années. Là.
Exactement. Donc, dans ce cas-ci, on parle d'un domaine qui avait connu certaines difficultés au cours de la dernière décennie, si on veut, certains obstacles, qui est le fait d'utiliser des virus qui tuent des bactéries pour essayer de les tuer à la place d'antibiotiques, tout simplement. Ce type de virus-là, c'est un type particulier qui s'appelle des phages. Donc, ce sont des virus qui s'attaquent à des bactéries. Donc, heureusement, on est content d'apprendre qu'il n'y a pas juste des virus pour nous autres dans la vie, il y en a aussi pour les bactéries.
Ouais.
Donc, ça, c'est le fun. Et donc, est-ce qu'on peut utiliser ces virus-là qui tuent des bactéries comme arme, carrément, pour nous sauver la vie, si on veut, donc, combattre des infections.
Donc, on s'injecterait des virus?
Ouais, ben, c'est ça. Là, on est rendu à comment on fait ça et surtout, c'est lesquels virus que ça nous prend pour réussir à combattre ça. Parce qu'il faut savoir que dans la nature, les phages, donc les virus qui s'attaquent à des bactéries, sont spécifiques pour une bactérie particulière. Ça veut dire que tu sais que dans la nature, le billet de loterie gagnant contre une bactérie il existe, mais il faut que tu le trouves. Il est où? Il est dans quoi? Et ces phages-là, on les retrouve souvent dans l'eau, dans le sol, dans les déchets, les égouts, et ainsi de suite. Là. Donc, le truc, c'est de réussir à trouver un match, là, trouver le virus qui combat telle bactérie.
Oui,
c'est ça. Toute la recherche est là, essentiellement. Et je disais qu'au cours de la dernière décennie, il y a eu des obstacles dans ce domaine-là, mais il y a 2 ans environ, il y a un chercheur de l'Université de Californie à San Diego qui est revenu d'Égypte d'urgence. Il combattait une infection que les antibiotiques n'arrivaient pas à combattre, finalement. Et rapidement, son état a dégénéré et il est tombé dans le coma. Donc là, sa femme, qui est une épidémiologiste, là, c'est dit, bon, est-ce qu'on peut trouver les antibiotiques fonctionnent pas, donc est-ce qu'on peut trouver un phage qui pourrait venir sauver la vie de mon mari? Et donc, elle a lancé cet appel-là et différentes compagnies et centres de recherche ont proposé des phages et miracle, on a réussi à sauver la vie de son mari. Il est revenu de ça comme si rien n'était. Le phage a carrément sauvé la vie de son époux. Donc, 2 choses intéressantes ici. Premièrement, il a survécu à un traitement avec un phage, ce qui n'est pas évident en partant parce que...
Est-ce que c'est la première fois que ça arrivait, là, concrètement comme ça?
Ben, documenté, il semble
documenté,
que oui.
Ouais,
là,
okay.
Moi, j'ai pas vu d'autres évidences à cet effet-là, mais il y a quand même quelques cas. Il faut savoir que, pour le moment, on est beaucoup dans le domaine de l'anecdotique avec les phages parce que en Europe de l'Est, ce sont des traitements qu'on utilise à l'occasion, par exemple en Europe, mais en Pologne ou en Géorgie, mais on comprend que ça a l'air de marcher, mais on n'a pas établi ou des paramètres très spécifiques. Comment on administre ça? De quelle manière on s'assure de la sécurité de l'individu qui reçoit ça? Tu parlais d'injection. Comment on injecte ça? Comment on donne ces phages-là à l'individu? Il y a plein de questions là, qui nous popent dans la tête.
Suspens, là.
Exactement, pour lesquelles on n'a pas de réponse. Alors, dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle, c'est que devant ces anecdotes-là, bien, il y a carrément un centre de recherche clinique qui se crée à l'Université de Californie à San Diego, justement pour répondre à toutes ces questions-là, pour en venir éventuellement à un vrai traitement qui va nous permettre de combattre ces bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Donc, faire l'inventaire des phages, contre quelles bactéries peuvent avoir un effet, et ainsi de suite. Comment le phage fait pour savoir où l'infection dans le corps humain, parce qu'on veut pas qu'il s'attaque à n'importe quoi, on veut qu'il s'attaque à la bactérie, fait qu'il trouve comment cette bactérie-là, le mode d'administration, c'est quoi la vitesse à laquelle il peut combattre l'infection. Donc tout ça, pour le moment, on est vraiment dans un type de traitement d'urgence qui est accepté par la FDA américaine lorsqu'il n'y a aucun antibiotique qui peut traiter. Donc, en traitement de dernier recours, si on veut, ouais. On accepte de prendre une chance, là, parce qu'on se dit, ben si on fait pas ça, il va décéder. Donc, on accepte ça. Donc, la belle nouvelle ici, c'est qu'il va y avoir carrément un nouveau centre de recherche clinique à cette université-là, qui est une des universités majeures aux États-Unis, qui va nous permettre d'en savoir plus. Et qui sait, peut-être que ce sera ça, la nouvelle vague de traitement contre les bactéries.
Ça veut dire que c'est très prometteur. Si on absolument. Met de l'argent dans un centre, c'est parce qu'on y croit beaucoup. Là.
Absolument.
Bon,
absolument.
Martin, j'ai très hâte que tu me dises maintenant comment on va réussir à étudier en laboratoire le cerveau de l'homme de Néandertal.
Oui, qui n'existe plus depuis 35 000 ans.
Comment, sur quel cerveau on va travailler? Là?
Ben, carrément des cerveaux fabriqués de façon artificielle. C'est ça qui est complètement pété ici. Ça rejoint un peu le type de nouvelles dont je t'ai parlé de temps en temps. Fabriquer des organes avec des imprimantes en 3D. Tu sais, on a parlé de ça et tout. Là, ici, on est carrément en train de fabriquer des mini-cerveaux de Néandertal pour le comparer à des mini-cerveaux fabriqués dans les mêmes conditions de l'humain moderne pour essayer de voir c'est quoi les différences puis comment est-ce que l'humain moderne a pu acquérir certaines caractéristiques, par exemple la capacité de socialiser par rapport à nos cousins parce que, pour pas qu'il y ait de confusion, il faut savoir que nous, on est d'une espèce particulière, c'est l'Homo sapiens, donc c'est une espèce carrément dans le genre humain et Néandertal c'était une autre espèce. Donc, c'est un cousin, c'est apparenté, mais c'est pas, on ne descend pas du Néandertal. Mais il y a quand même...
À part Trump.
Ouais, mais, on rallonge-tu ma chronique pour en jaser? On pourrait, hein? Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, pour mettre les gens en contexte, jusqu'à maintenant, ce qu'on pouvait faire, c'est examiner des crânes fossilisés de Néandertal et de regarder la forme du crâne, regarder le volume et la forme des espaces disponibles à l'intérieur du crâne pour essayer d'avoir des idées sur le type de cerveau dont il devait disposer. Et là, imagine, est-ce que ça voulait dire sur ses caractéristiques, comment il se comportait? Tu sais, c'est pas super évident, non, c'est pas direct. Là. Alors là, on a réussi à joindre trois domaines qui sont de pointe, là, qui sont dans les plus hautes présentement en recherche scientifique pour créer carrément des cerveaux artificiels de Néandertal. Donc, on parle ici de l'étude de l'ADN ancien qui est très à la mode présentement. Donc, on est-tu capable de prélever de l'ADN qui a des milliers d'années pour en savoir plus sur l'être vivant qui portait cet ADN-là. Une technique de génie génétique s'appelle le CRISPR, qui permet de modifier un gène de façon là, automatique. C'est très, très simple et c'est malheureusement avec ce type de technique-là que, par exemple, des chercheurs chinois ont carrément modifié des embryons humains pour leur donner les gènes qu'ils voulaient. Bon, c'est une technique qui vient avec ses beaux et ses moins beaux côtés. Ouais, effectivement. Et finalement, la possibilité de fabriquer de petits organes à partir de cellules souches. Donc, on met tout ça ensemble et on a créé des cerveaux de Néandertal. C'est vraiment très, très cool. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des cellules de peau. Ils les ont modifiées pour les ramener à l'état de cellules souches. Ils ont modifié certains gènes pour que ces gènes-là soient fidèles aux gènes qu'on retrouvait dans l'homme de Néandertal. Mm-hmm. Et après ça, ils se sont arrangés pour que ces cellules souches-là deviennent de mini-cerveaux. Écoute, c'est gros, comme des petits pois à peu près, pour voir comment ils vont se comporter. Donc ça, c'est imagine à quel point c'est pété, c'est presque de la science-fiction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à deux conclusions ici. Premièrement, les mini-cerveaux fabriqués à partir d'ADN représentatif de Néandertal n'ont pas la même forme que les mini-cerveaux de l'humain moderne. Si on fait la même technique avec nos cellules à nous autres.
En quoi la forme est différente?
Elle est la forme des mini-cerveaux Homo sapiens est très sphérique, donc c'est très rond. Ouais. Alors que dans le cas de Néandertal, c'est plus bosselé, c'est plus irrégulier comme forme. Donc déjà, c'est comme si on a des mini-cortex de la grosseur d'un petit pois, là, puis on peut déjà voir ça. Deuxièmement, on n'a pas du tout le même nombre et le même type de connexion entre les neurones dans les deux types de cerveaux. Dans le cerveau de Néandertal, il y a moins de connexions. Donc, premièrement, les neurones migrent plus vite pendant le développement. Donc, ils se déplacent plus vite pour aller se mettre en place, si on veut. Mais ils font moins de connexions entre eux. Et ça, c'est intéressant parce que on se dit, on est peut-être en train de voir ici la naissance de l'habileté à socialiser qu'on voit chez l'espèce, chez notre espèce
ben oui,
à nous,
tout à fait.
Qui s'est développée. Le fait de pouvoir voir comme ça, d'établir certaines connexions pendant le développement, ça a été associé à des problèmes de sociabilisation, notamment en regardant le cerveau d'enfants autistes, donc qui ont des problèmes de développement au niveau de certaines connexions qui s'établissent moins facilement que d'autres. Et là, ça a des impacts au niveau de leur sociabilisation. C'est un des symptômes de l'autisme.
C'est fascinant dans la science à quel point parfois une recherche peut mener
exactement.
Sur d'autres terrains. T'sais.
Voilà.
Mais qui finance des études sur des cerveaux de l'homme
néandertal? Dans ce cas-là, on est vraiment dans la recherche fondamentale. Et c'est important, tu m'ouvres une belle porte là. C'est important de savoir que quand on fait de la recherche fondamentale, on le fait bien entendu pour faire avancer les connaissances, mais on ne sait jamais d'où va venir une découverte qui pourrait carrément transformer notre vie, qui pourrait venir régler un problème de santé qu'on n'est pas capable de régler, qui pourrait carrément, par exemple, mener à l'électrification. Là. On s'entend aujourd'hui, on dépend de l'électricité. Mais tu sais, au Moyen-Âge, là, c'était des torches avec de l'huile. Là.
C'est
l'électricité
est arrivée
à un moment donné. Ben, c'est ça.
Ouais, ouais.
Mais il n'y a pas personne dans la vie qui s'est dit « je vais développer la façon de rendre toutes les maisons électriques ». Ça a été lorsqu'on a découvert comment l'atome fonctionnait qu'on s'est dit « ah, peut-être
un
que ça va mener à d'autres choses ». Puis là, tout d'un coup, on arrive à un mode de vie qu'on ne pourrait même pas imaginer là, sans ces découvertes-là. Donc, la recherche fondamentale, ça sert à ça. Ça sert à développer des connaissances qui vont alimenter toutes sortes d'autres projets de recherche pour éventuellement en savoir plus. Donc ici, c'est vraiment très intéressant. On a identifié toutes sortes de gènes dans cette étude-là qui mènent justement à qui pourraient mener à cette sociabilisation-là. Ça pourrait peut-être nous aider à comprendre comment ça se passe dans notre cerveau à nous autres.
Merci beaucoup, Martin Carly.
Bonne
semaine prochaine.
Salut.
Bye.